C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous sommes le mercredi 4 décembre 2019. Il est 19h passé de 1 minute et c'est l'heure du Canu Info. Donc ce soir, nous allons parler de...
La grève.
La grève.
Et des mouvements d'un peu partout dans le monde.
Et oui, parce qu'il n'y a pas que en France que ça a pété demain, que ça pète déjà et que ça va repéter.
Ensuite, on parlera de coups de pression de flics dans un lycée, parisien.
Retour sur les perquisitions dont vous avez parlé la semaine dernière, les perquisitions du 26 novembre à Grenoble, pour voir plus précisément un peu ce qui s'y est passé.
Et un point sur nos mouchards de poche.
Et ensuite, on parlera, et à ne pas confondre avec les mouchoirs de poche.
Petit appel, que si ça se trouve, vous avez déjà vu sur vos murs au carnaval pour éteindre les lumières.
Et nous commençons tout de suite par une brève du colonialisme. Puisque j'espère que peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est Total qui développe un méga projet pétrolier en Ouganda et ça va provoquer le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers, c'est pas 10 personnes. Et ce même projet menace également le plus vieux et grand parc naturel du pays. Faux.
Du mercredi.
Et voilà, aujourd'hui on est le 4 décembre, ce qui veut dire que demain on est le
5.
Le 5, enfin, depuis le temps qu'on l'attend celui-là, dites donc. Alors beaucoup de monde est vénère pour les retraites, c'est sûr. Et puis, comme la grève est déclarée de toute façon pour lutter contre le projet de réforme des retraites, c'est le discours qu'on entend le plus. Et même si on ne sait pas encore ce qu'il y aura précisément dans la réforme, parce que de toute façon, la dernière tactique du gouvernement, on dirait, c'est de ne rien dire de précis sur ses intentions, sur cette réforme. Comme ça, ils peuvent un peu égrener des infos tous les jours au fil de ce qui se dit, de ce dont ils ont peur, de s'ils peuvent se rassurer, de je sais pas quoi.
Mais ce qui est assez fou et ce qui est assez rare, c'est que pour une fois c'est assez rare que les gens aient une aussi forte mobilisation pour un projet pour l'instant dont on ne connaît
c'est
pas
exactement
les contours.
Dont on connaît pas bien les contours. Alors voilà, même si on sait rien de précis sur les intentions du gouvernement, on sait de toute façon, et c'est quand même pour ça aussi que les gens se mobilisent beaucoup, que de toute façon, ça sera un projet de crapulerie, comme à peu près tout ce que fait ce gouvernement, une réforme pour plier un peu plus les pauvres et remplir un peu plus les poches des riches et des patrons. Disons que de toute façon, à chaque fois qu'ils font un truc, on peut savoir à l'avance que ça va être ça. On risque de pas beaucoup se tromper. Mais il faut bien se rendre compte aussi, même si on l'entend un peu moins dans les médias parce que c'est pas directement la thématique, demain, il y a un paquet de gens qui ont un paquet de raisons d'en vouloir à ce gouvernement qui seront dans la rue. Et ces raisons sont sacrément nombreuses. Alors, est-ce que je vais les détailler? Non, pas tout à fait, mais je vais quand même citer des petits bouts en vrac, juste des exemples, finalement. Ce gouvernement, eh ben, c'est celui qui a diminué les allocations logement des plus pauvres. Alors, 5 euros, c'est rien du tout. En tout cas, dans la tête de nos ministres, c'est rien du tout. Mais il y a une bonne raison pour ça, c'est qu'ils n'ont jamais eu à s'imaginer une seconde ce que c'est que de vivre avec un RSA, ou même pas un RSA, parfois. Mais 5 euros, quand même, pour nous, des fois, c'est quand même vraiment une somme. Ce gouvernement, c'est aussi celui qui s'est fait élire pour nous préserver de la menace d'une Marine Le Pen. Vous vous rappelez, le duel, et il fallait sauver la démocratie contre le risque d'une Marine Le Pen. Sauf que depuis que ce gouvernement est élu, il hésite tellement devant aucune saloperie raciste que parfois on finit par se demander si la différence est si notable que ça. On se demande ça, par exemple, quand Macron nous fait tout un cinéma au moment où il faudrait juste laisser débarquer un bateau en perdition qui trimballe quelques dizaines de migrants, migrantes. Parfois, c'est parce qu'il y a une directive pour aller ficher des étrangers hébergés dans des structures d'urgence. Parfois, c'est parce que le gouvernement, tout simplement, nous vote cette fameuse loi Asile et Immigration, qui est une énième loi pour durcir encore les conditions d'accès au sol français, à avoir des papiers français. Ou parfois parce que ce gouvernement, au moment où il nous prépare une réforme de saloperie comme sa réforme des retraites, il fait diversion sur le front social en agitant quoi ? En agitant une sorte de débat dégueulasse sur les mamans voilées dans les écoles. Ce gouvernement, c'est aussi le gouvernement du président le plus vert de la planète. Il avait été élu à un moment par je sais pas qui, le président le plus écologique de la planète. Celui qui parle tout le temps, et qui concrètement, dans sa politique écologique, a réussi à quoi ? À interdire les pailles en plastique. Il a aussi proposé d'interdire le glyphosate à quelques mètres autour des habitations, mais bon, ça, de toute façon, ils ne le voteront jamais, hein, lui et sa majorité. Et encore moins... Et ils voteront encore moins les trucs qui pourraient réellement servir à quelque chose, comme par exemple de la thune du budget pour isoler les logements des pauvres, les pauvres qui niquent la planète en même temps que leur portefeuille, à chaque fois qu'ils essayent de pas trop se cailler en hiver, par exemple. C'est juste un petit exemple de truc qui serait réellement une mesure écolo, mais qu'on est sûr et certain que ce gouvernement ne prendra pas. Ce président, c'est aussi celui qui a promis pendant sa campagne, bon, comme d'autres l'avaient fait avant lui, mais lui, il l'a promis hyper solennellement, que plus personne ne dormirait dehors. Je crois que c'était un an après son élection, quelque chose comme ça. Bon, bah aujourd'hui, c'est lui qui envoie ses préfets, comme à Lyon par exemple, prendre toutes sortes de mesures, entre autres des mesures illégales. Hein. C'est-à-dire que le préfet aussi dit à l'oral, mais ne se risque surtout pas à faire le moindre document écrit, parce que c'est vraiment complètement, totalement illégal, des mesures pour ne plus proposer le moindre hébergement à des familles ou même des individus isolés, des gens qui n'ont pas de papier. C'est aussi le gouvernement qui a lancé les flics dans une violence assez incroyable. Le gouvernement champion toute catégorie des yeux crevés, des mains arrachées, du jamais vu au minimum depuis la 5ème République et peut-être même assez au-delà. Le gouvernement qui continue de toute évidence à protéger les flics qui ont tué la mamie marseillaise Zineb Redouane. C'est toujours ce gouvernement qui fait que demain on va descendre dans la rue. C'est aussi celui qui, en tout cas depuis que moi je suis en âge de comprendre la politique, mène de la manière la plus intense et la plus éhontée la lutte des classes. Alors eux, la lutte des classes, ils savent ce que c'est et ils la font tous les jours. C'est bien la lutte de la classe, la lutte des classes les plus riches contre les plus pauvres. C'est la lutte qui leur permet de pressurer toujours plus, de remplir toujours plus les poches des riches et des très riches, les pauvres et de remplir les poches des riches pour remplir les poches des riches. Et c'est le gouvernement qui impose cette politique de lutte des classes avec la plus grande violence, celle dont on vient. C'est pas du tout une violence symbolique, hein, cette fois-ci on parle bien de violence très très réelle comme on vient de le dire. Pour toutes ces raisons, et encore, ma liste est extrêmement partielle, j'ai pas parlé d'hôpital public, j'ai pas parlé d'école publique, j'ai oublié plein de choses. Demain on va être dans la rue. Et on sera plein, et on sera vénère, et on se sentira aussi une fraternité, une sororité avec nos camarades qui sont dans d'autres rues et d'autres endroits du monde. On va y revenir un petit peu juste après, ces derniers mois, ces dernières semaines. On se sentira un peu à Hong Kong, un peu au Chili, au Liban, en Algérie, en Iran ou en Irak. La hausse du ticket de métro, une loi sur l'extradition, un président grabataire, une réforme des retraites. On connaît les déclencheurs, on ne sait pas où la révolte s'arrêtera. We'll be right back. C'était le moment de s'écouter une petite chanson bien classoire, Billy Bragg qui chantait Power in the Union. Alors demain, pour venir à la manif, dis donc, il va falloir trouver un moyen de transport parce que alors non, quand même, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle juste pour aller à la manif, c'est que a priori à Lyon, les métros et les trams devraient fonctionner normalement. À peu près normalement, et même le funiculaire, c'est-à-dire que si c'est pas la manif que vous voulez aller, mais pris à Fourvière, ça marche aussi. Par contre, les autres lignes Tessel, ça va être un peu plus la galère, une dizaine va être totalement supprimée, une grosse quarantaine vont circuler, ouvrez les guillemets, avec une fréquence allégée. Fermez les guillemets, c'était le site des TCL. Les trains, ça va pas être ça non plus. Les TER, 1 sur 20. Un TGV sur 7, un Intercité sur 8, tout ça c'est dans les gares lyonnaises. Alors j'ai pas fait les trucs nationaux, mais c'est à peu près le même genre de proportion. Dans le détail, 3 allers-retours à la place de 22 pour Paris en TGV, 2 sur 15 vers Marseille, 2 sur 10 vers Montpellier. Alors pour les TER, il y aura quand même quelques bus, vous pouvez toujours tenter le coup. Si vous pouvez aussi ne pas bouger demain, c'est pas mal. Et puis, ça va pas du tout s'arrêter jeudi soir, la grève est reconductible, et la mairie de Lyon, figurez-vous, flippe déjà de son effet sur la fête des Lumières. Alors la mairie dit, bon, non, mais c'est-à-dire que la mairie, ils sont vraiment deg, quoi. Depuis l'année où on leur avait annulé à cause des attentats, l'année dernière, c'était les gilets jaunes qui avaient foutu le bordel, maintenant c'est la grève. Ils sont au bout de leur vie. Et qu'est-ce qui est au bout de leur vie aussi? C'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière du Rhône. Certains établissements ont jusqu'à 30% d'annulation, d'ores et déjà, pour la fête des Lumières ce week-end.
Yeah.
Un hôtel nous a même signalé avoir déjà perdu 10 000 euros à cause des annulations. Oh là là, bichou. Les syndicats CGT Transport, FO Transport et Logistique ainsi que l'UNSA Transport appellent les salariés du secteur à participer au mouvement de grève. Des perturbations sont à prévoir dans les villes ainsi que sur les routes puisque les précédents mouvements sociaux des transporteurs routiers ont donné lieu à des opérations escargots et des blocages, nous dit Libé. Alors si vous voulez prendre l'avion aussi demain, ça va être compliqué. Air France supprime 15% de ses vols moyens courriers, mais quand même 30% de ses vols intérieurs. EasyJet annule 233 vols. Alors vu qui écoute Radio Canu, c'est peut-être les vols d'EasyJet qui vous inquiètent le plus.
Non, il y a peut-être plein de gens qui écoutent Radio Canu et qui volent en Air France.
Non mais oui, il doit y en avoir quelques-uns, mais...
Nos riches donateurs qui nous ont aménagé le local.
Et en plus de l'appel à la grève illimitée, la Fédération Mines et Énergie de la CGT FO et Sud prévoit des baisses de charges dans les centrales hydrauliques et nucléaires. Il va y avoir moins d'élec demain. À EDF, les organisations syndicales souhaitent organiser des coupures ciblées visant les grandes entreprises et l'État.
Ça, on aime bien les coupures ciblées, c'est toujours drôle quand même.
Carrément, tout à fait. Les étudiants et étudiantes sont aussi mobilisés déjà depuis une paire de semaines, depuis qu'un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon. On devrait donc les retrouver en masse à la manif de demain. Les lycéens et lycéennes aussi seront là, lycéens et lycéennes qui se sentent particulièrement concernés par cette réforme, puisque cette fameuse clause du grand-père, donc la clause du grand-père, pour les gens qui n'auraient pas suivi, c'est l'idée que c'est l'idée de Macron pour calmer les salariés qui sont trop vénères, c'est de leur dire en fait on n'a qu'à dire que vous ça va, c'est juste les nouveaux entrants et nouvelles entrantes sur le marché du travail, c'est-à-dire vos gamins qui bosseront jusqu'à la fin de leur vie, mais vous allez d'accord, on dit que la réforme ne rentre pas en compte tout de suite. Bon, alors du coup, on n'a pas l'impression que ça calme, que ça calme tant que ça les parents finalement, mais alors les gamins, c'est sûr, ça les calme pas du tout, du tout. Donc voilà, lycéens, lycéennes, demain dans la manif, vous allez voir, il y en a qui vont courir, qui vont être deux heures à l'avance du rendez-vous et qui vont commencer à courir dans tous les sens. Vous les reconnaîtrez bien. Les profs sont pas très contents non plus. Côté ministère, on évoque un taux de 55% d'enseignants grévistes au niveau national et jusqu'à 78% à Paris. Et semble-t-il énormément d'instits et de profs grévistes dans les cambous. Bien plus que dans les villes. Durant un point presse, Jean-Michel Blanquer a estimé qu'environ 30% des écoles pourront assurer un service minimal d'accueil, en sachant qu'il n'en sait rien en réalité, parce que les écoles, comme la plupart des endroits, les gens ne sont pas obligés de dire à l'avance individuellement s'ils feront grève ou pas. Ça, c'est juste dans les transports, sur certains trucs, peut-être les hôpitaux ou quoi, mais pas du tout dans les écoles, quoi. Pour le reste, ça dépend de ce, dit toujours Jean-Michel Blanquer, de ce que les communes sont en mesure de faire au cas par cas. Et puis, ce que les communes vont être en mesure de faire, on n'est pas entièrement sûr, vu que les ATSEM et même les dames de cantine vont aussi être en grève, et que là aussi, ça risque d'être assez massif. Donc c'est pas évident que vous puissiez vous débarrasser de vos gosses pour aller à la manif. Il fallait pas les faire.
Un petit point où hop, on casse un peu ton super speed de liste à la Prévert des mobilisations. On va parler d'une mobilisation, mais plus particulièrement de la grève qui se passe en ce moment à Édouard Herriot au service orthopédique. Et hop, et c'est donc en fait début septembre que la direction de l'hôpital a mis au courant le service orthopédique de la mise en place d'une restructuration. D'ici janvier, donc c'est dans pas longtemps, sur les 50 lits du service, 14 seront supprimés. Suite à cette annonce, l'ensemble du service s'est déclaré en grève illimitée depuis le début d'octobre. Alors bien évidemment, qui dit suppression de lit dit également suppression de poste, parce que la logique de l'hôpital n'est pas d'alléger la charge de travail du personnel soignant, mais de rendre l'hôpital public rentable. Alors, donc, en plus de la suppression de ces 14 lits, au passage, 5 ont déjà été supprimés, ils ont trouvé un espèce de moyen de dire « Ah mais là, attendez, on va... » Bon bref, du bricolage, mais au final, ils ont quand même réussi à en supprimer 5 avant la réelle restructuration. Ils prévoient également de retirer 6 infirmières et 6 aides-soignantes sur un total de 24. C'est pas rien. Pour la direction, c'est complètement massif, et je veux dire dans des services hospitaliers où même la suppression d'une infirmière et d'une aide-soignante, ce serait déjà beaucoup trop, parce que déjà
en fait, ou même le nombre qu'il y a, c'est déjà très
oui, c'est ça, c'est déjà complètement insuffisant, alors même que le personnel hospitalier dans son ensemble réclame juste plus de personnel, quoi. Pour la direction, l'équation est donc simple. Ce qui est rentable, c'est les actes chirurgicaux. Ce qui, dans ce service, grosso modo, une opération s'est facturée à peu près 15 000 euros. C'est pas mal, hein. Mmh. Une journée en hôpital s'est facturée 1 700 euros. Donc, plus on fait de l'ambulatoire, comme ils appellent, c'est-à-dire une opération le matin et un départ le soir avant que vous ayez un lit, eh ben, plus on va faire du fric. Cette logique de rentabilité a été permise grâce à la T2A. Alors c'est un peu, j'ai plus le
tarification à l'acte.
Et oh bravo. Ah bah 2A, pourquoi? Parce que à l'acte, ouais, voilà. Ça fait plus moderne. Alors, ce qui a été instauré en 2004, qui mettait fin à un financement global de prise en charge, et où on est passé donc à une tarification à l'acte. D'où la course actuelle à pratiquer des actes chirurgicaux, au détriment, par exemple, d'un bon rétablissement, d'un bon suivi pour les patients et patientes. Avec ce système de tarification, les interventions chirurgicales sont très bien rémunérées, mais le volet, par exemple, prévention, longue prise en charge, par exemple, la psychiatrie, les maladies chroniques, le suivi des personnes âgées, sont très mal, voire pas du tout, pris en charge. autre outil que la direction a entre ses mains. C'est en fait les directions des hôpitaux, c'est un peu maintenant comme des directions de grosses boîtes, quoi. Elles ont ce qu'elles appellent les DMS. Alors les DMS, c'est les durées moyennes de séjour. Alors bon, eh ben le problème des réseaux RVO, c'est qu'elles seraient au-dessus. Attention, ça veut dire qu'en gros, ils prennent un peu trop bien soin des patients et des patientes qui sont hospitalisés. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon bah en fait, peut-être que vous pouvez bénéficier d'un jour de plus. Et encore,
c'est
je pense que c'est même pas ça.
Quoi. La moitié de vos tripes aujourd'hui, peut-être que vous pouvez encore dormir ici cette nuit.
C'est ça. Et donc ils sont un peu au-dessus par rapport à d'autres hôpitaux ou par rapport à la moyenne nationale.
Si tout le monde est en dessous de la moyenne nationale, c'est plus une moyenne.
Parce que j'ai dit quoi, j'ai dit ça?
Non.
Ah,
c'est,
d'accord.
C'est juste que si tous les gens qui sont au-dessus réfléchissent à passer en dessous,
et c'est ça,
ça fait une course sans fin vers zéro durée, quoi.
C'est dire où va l'hôpital, quoi. Mais sauf que ce que ne prend pas du tout en compte ce barème, et il n'a pas été fait pour ça, mais c'est les populations qui sont prises en charge. Et dans ce service, le personnel dit qu'en fait, eh ben, il y a un public souvent, enfin, en tout cas, ça leur arrive régulièrement d'avoir un public en difficulté, que ce soit en difficulté sociale, psychique, ou des personnes qui parlent mal ou pas du tout français. Bref, pour certaines personnes, il est important et nécessaire de prendre plus de temps, d'expliquer. Enfin, vous voyez, on imagine bien que, par exemple, c'est plus long d'expliquer des choses, des traitements, ou là, on parle d'un service orthopédique, du coup, j'imagine des trucs de rééducation qui vont jouer. Bah, une personne qui parle pas bien français, voire mal, et ben, dans un service où, déjà maintenant, les infirmiers, infirmières et les aides-soignantes ont pas un temps de fou à consacrer aux patientes, vu le rythme qu'elles ont, et ben, voilà, tout ça est compliqué, ça va l'être encore plus. Le risque avec ces outils de comparaison, c'est qu'en fait, on va avoir la volonté, du coup, de prendre en charge que les personnes qui, pour qui c'est le plus simple, en fait, pour qui on est assuré que si elles rentrent, en fait, elles vont avoir un acte chirurgical et en fait, elles vont ressortir le soir. Et ces personnes-là, en fait, c'est des personnes qui vont avoir le moins de problèmes. Et en gros, les gens qui ont le moins de problèmes dans la vie, quand même, c'est les gens qui ont du pognon ou les gens qui sont un peu aisés de manière générale. En gros, on parle de l'hôpital public qui va mettre les plus fragiles, les plus pauvres sur le carreau. Alors par exemple, après janvier, en tout cas, si la mobilisation, si les directions et les pouvoirs publics restent complètement sourds à cette mobilisation, à quoi va ressembler le service? Par exemple, pour 16 patients, le matin, il y aura une infirmière et une aide-soignante. Alors le matin, c'est quand même l'heure où, en général, les gens se réveillent ont envie de pisser. Il faut donner les médocs, il faut changer des pansements, il faut donc accompagner les gens aux toilettes ou machin. On parle d'un service ortho, c'est-à-dire que les gens sont immobilisés et le seront d'autant plus que la logique, c'est de dire, en fait, pour que vous soyez hospitalisé, pour que vous ayez un lit, il faut vraiment que vous ayez les deux jambes pétées. En gros, vous avez opéré des deux genoux et des deux chevilles, vous pouvez vraiment pas rentrer chez vous. Voilà. Donc ça va demander, par lit, ça va demander plus de travail, sauf qu'elles seront moins à pouvoir faire ce travail. Voilà, en gros, ce que dit le personnel mobilisé, c'est bah, en fait, après janvier, en fait, on vous déconseille, hein, de venir dans notre service. Il va falloir trouver un autre hôpital parce que, bah, en fait, ce sera juste de l'abattage parce qu'on n'aura pas le temps de pouvoir de s'occuper de vous. Depuis le début de leur mouvement, en gros, elles ont rencontré leur direction depuis octobre. Ils s'en foutent. Ils ont rencontré la direction des HCL, donc c'est-à-dire
l'Hospice
Civil de Lyon, c'est-à-dire le méga organisme qui s'occupe de ça. Ils ont dit, on voit pas bien ce qu'on peut faire. Bon, voilà. Et il y a eu une rencontre avec Kepenekian, qui lui est ancien médecin. C'est la politique qui est en jeu. Alors comme on est en campagne, peut-être qu'il y aura des avancées, peut-être que sa fibre de médecin va jouer, peut-être. Bien sûr, il n'y a pas eu de promesse, bien sûr, il s'est engagé sur rien. Voilà. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est du courage. On leur souhaite d'autant plus de courage que, par exemple, c'est un service où les médecins sont militaires, par exemple, dans le service. Voilà, oui, parce que vous savez, déjeuner était en train de fermer ou à fermer, je sais plus exactement. Bref, du coup, c'est droit de réserve, ils peuvent pas dire grand chose, est-ce qu'ils ont envie de le dire, on n'en sait rien. Mais du coup, on va pas falloir compter sur les grades au-dessus pour se bouger. À Edouard Ayo, pour l'instant, il y a déjà les urgences qui sont en grève et le poste de sécurité. Ça fait tout un tas de monde. Bien sûr, c'est un service, après ce sera l'autre, et après ce sera encore un autre, bref. Bon courage à toutes les personnes qui se mobilisent sur l'hôpital pour nous.
Voilà, sur l'hôpital. Et puis, bah, écoutez, je vais continuer, mais alors cette fois-ci très rapidement, une petite liste qui n'est jamais exhaustive de gens qui seront en grève demain. Je dis jamais exhaustive parce que j'ai cherché sur Internet tout à l'heure et à chaque site que j'ouvrais, j'avais des nouveaux secteurs à rajouter à la liste. Mais du coup, on a les services publics, bien sûr. La CGT a déposé un préavis de grève pour les fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour la ville, le département, la région. On a la Poste, les agents du groupe La Poste sont invités à se joindre au mouvement par FO.com, entre autres, mais par plein de trucs. Bon, demain, ça va être compliqué d'avoir du courrier. La justice, le Conseil national des barreaux, c'est-à-dire les avocats, appellent à une journée justice morte. Les pompiers professionnels sont en grève depuis le mois de juin, de toute façon, mais seront aussi à la manif. Les urgences sont assurées. Et puis, on a aussi la CGT de PSA, Peugeot Système Automatisé, qui appelle à la grève, le ramassage des déchets, les raffineries, c'est compliqué parce qu'elles ont été bloquées ces derniers jours par des gens qui sont certainement pas nos amis, puisque c'est plutôt les patrons du BTP et une partie de leurs salariés, mais les salariés qui luttent pour les intérêts de leurs patrons, qui veulent pas payer une taxe, qui veulent pas payer une taxe sur le gasoil. Bon, ceux-là, c'est pas nos amis, mais demain, pour le coup, il y aura les travailleurs des raffineries qui vont bloquer à leur tour. Ce qui fait qu'il y a des coins de France où ça va commencer à vraiment peut-être bien manquer d'essence. Et puis, on y reviendra peut-être juste après, mais deux syndicats de police appellent à des actions symboliques dans les commissariats de 10h à 15h, et on n'est pas à l'abri de trouver des flics dans les manifs. Les manifs, demain, 10h30, à Sans Souci. La grosse. Et puis, par ailleurs, comme de toute façon, c'est grève illimitée, on sait déjà le rendez-vous pour vendredi, manif, 11h30, à Jean Massé, cette fois.
Dans les rendez-vous à ne pas aller, il y a demain, à 10h, devant le Fort Montluc. Pourquoi ? Parce que Fort Montluc, c'est le gros hôtel de police de Lyon. Et pourquoi ? Eh ben, comme tu le disais, les flics sont mobilisés aussi. Et du coup, n'allez pas déguerpir dans le coin, parce que ça va être café de bleu.
Et à propos de flics et de manifestations, est-ce que quelqu'un dans ce studio a le numéro de la caisse de solidarité ?
On le redonnera dans 20 secondes.
Oui, et donc on rappelle que c'est le numéro qui sert si vous vous faites arrêter, si vous voyez quelqu'un que vous connaissez se faire arrêter, si vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui a le temps de crier son nom se faire arrêter. C'est le numéro de soutien juridique pour les gens qui ont des problèmes dans un cadre militant. Le numéro de la Caisse de solidarité est donc le
06 43 08 50 32 06 43 08 50 32. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Caisse de solidarité Lyon et vous tombez sur un article de Rebellion qui vous donne toutes les coordonnées.
Et puis vous aurez bien l'occasion d'avoir des tracts avec ce numéro demain dans la manif.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et oui, comme je disais la semaine dernière, les mouvements sociaux et démocratiques qui traversent actuellement le Moyen-Orient sont dans cette région sans précédent par leur ampleur et leur nature. Ils prolongent les révolutions arabes de 2011 et s'inscrivent dans un monde où les sociétés civiles conquièrent peu à peu leur autonomie grâce aussi aux réseaux sociaux. On le voit aussi en Amérique latine, à Hong Kong, en Algérie, en Haïti, au Soudan. C'est une liste non exhaustive et ce même phénomène est observable. Mais la lutte contre la corruption et pour la démocratie est aussi celle qui expose les peuples à la pire des répressions, parce que c'est du pouvoir qu'il s'agit. Donc je ne vais pas pouvoir faire toute la liste des pays où il y a des mouvements sociaux actuellement. J'ai recueilli quelques brèves de certains. Donc en Iran, la réalité de la répression se précise puisque des vidéos des forces de sécurité iraniennes tirant à bout portant sur les manifestants désarmés et aussi des corps ensanglotés jonchant le sol émergent chaque jour avec le retour progressif d'Internet en Iran. Donc pour rappel, ce mouvement a été déclenché le 15 novembre par l'annonce d'une hausse des prix de l'essence et s'en est suivi des manifestations violentes par endroits qui ont été vraiment réprimées dans le sang. Donc c'est 208 personnes qui ont été tuées dans le dernier comptage lundi 2 décembre d'Amnesty International, précisant que le bilan réel pouvait être beaucoup vraiment supérieur. Et donc les autorités iraniennes, comme c'est bien connu, ont qualifié de mensonge absolu ces bilans. Ils ne confirment la mort que de 5 personnes, 4 membres des forces de l'ordre tués par les émeutiers et de 1 civil. Donc voilà. Et l'une des villes où la répression est féroce, c'est Mashhad, située dans la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays. Et en fait, la population s'est rassemblée à bloquer les routes à cet endroit-là, notamment celles qui mènent à l'installation pétrochimique. Et contrairement à ce que les autorités prétendent, ces personnes étaient fermes dans leurs revendications, mais pas dans la casse. Mais ils ont été réprimés avec des armes, avec des mitraillettes lourdes soviétiques Dushka. Et dans son édition de dimanche 1er décembre, le New York Times indiquait qu'environ 50 personnes avaient été tuées dans cette ville entre le 16 et le 20 novembre. Et au Liban, ce début de semaine, les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre continuent à Beyrouth après donc que la continuation du blocage du pont Ring, l'une des principales artères de la ville, et globalement la contestation dans le pays ne faiblit pas. Donc, rappel pour les gens qui ne suivent pas trop, c'est que le 29 octobre, le Premier ministre Saad Hariri avait démissionné sous la pression de la rue. Mais donc, on est un mois plus tard et les manifestants maintiennent la pression pour obtenir un nouveau gouvernement composé d'indépendants et de technocrates. Et les tractations politiques se poursuivent. Et depuis le début de la semaine, le nom de l'homme d'affaires Samir Khatib est avancé pour diriger le futur cabinet ministériel. Mais la rue n'en veut pas, puisque des manifestants se sont rassemblés hier soir devant son domicile dans le quartier de Manara à Beyrouth pour scander leur refus. À ce qu'il soit chargé du poste. Et bien sûr, les manifestants continuent à réclamer un changement en profondeur du système, puisque cela a conduit à la faillite du pays. Et rappelons qu'il y a un sacré coup économique qui est en train de se jouer dans tous ces pays, mais au Liban notamment. En Irak, dont on avait parlé beaucoup la semaine dernière, il y a eu l'annonce vendredi de la démission du Premier ministre. Et cette annonce ne calme pas la contestation, puisque le jour même, le 29, là, vendredi, les manifestants ont continué leur manif et blocage. Ils ne perdent pas de vue les demandes initiales du mouvement, qui ne vise pas la chute du gouvernement mais la chute du régime tout entier. Et cette annonce de démission n'a donc pas changé l'ambiance de lutte, et les manifestants disent vouloir rester mobilisés jusqu'à ce qu'ils obtiennent donc la fin de ce système politique. En Algérie, le procès historique d'anciens ministres et grands patrons de l'ère Bouteflika s'est ouvert aujourd'hui, 4 décembre, à Alger. Mais les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas réunies. Et à moins de 10 jours de l'élection présidentielle, les avocats dénoncent donc une justice politisée et dépendante des délais électoraux sur fond de règlement de comptes et de vengeance entre clans. Donc voilà, ça s'ouvre, mais quand même les avocats disent que ça va pas être un procès équitable. Et des gens dans la rue qui continuent à manifester, et le ministre algérien de l'Intérieur a déclaré hier, et ça pique, les opposants à la présidentielle en Algérie sont des traîtres, mercenaires, homosexuels, inféodés aux colonialistes. Donc une très large partie de la population s'oppose à la tenue de la présidentielle. Et ces déclarations du ministre de l'Intérieur ont été vraiment largement critiquées par la rue et par un grand nombre de médias. En Amérique du Sud, après au Chili, après une série d'annonces sécuritaires et économiques ces derniers jours, le président Piñera a annoncé hier le versement d'une prime exceptionnelle à 1,3 million de familles, donc, et débloqué 5 milliards de dollars pour relancer l'économie. Ouais, c'est quelques miettes pour calmer les foules, on dirait, puisque ça va pas changer. Le mouvement social, pour rappel, s'est déclenché le 18 octobre avec des manifestations d'étudiantes contre une hausse du prêt du ticket de métro, qui se sont ensuite muées en une révolte sociale d'ampleur et la plus grande depuis la fin de la dictature depuis Pinochet. Et du coup, bah, c'est une protestation contre les inégalités qui règnent dans un pays où l'économie prospère, mais où l'État et défaillant dans les domaines de l'éducation, de la santé et des retraites. Et donc, depuis 46 jours, ce mouvement a fait 23 morts quand même, et plus de 2000 blessés. Et pour finir ce point international, en Colombie, les autorités se sont dit prêtes lundi à dialoguer directement avec les leaders du mouvement politique si et seulement si ils annulaient la manifestation nationale prévue aujourd'hui. Donc les gouvernements se la tentent, mais c'est du n'importe quoi. Ce mouvement social a débuté le 21 novembre, il y a deux semaines. Et ça a commencé, écoutez bien, comme le 5 décembre demain, une manifestation et une grève nationale très suivie et très inhabituelle. Et depuis cette date, les manifs et blocages ne s'arrêtent pas. Ils sont souvent spontanés, mais aussi en partie organisés par tel ou tel secteur de la société colombienne.
Et retour en France et à Paris, et c'est toujours des histoires de flics, puisque ce matin, des lycéens et lycéennes, plusieurs dizaines, ont bloqué leur lycée. Vers 6h30, ils arrivent avec tout ce qu'il faut pour faire un bon blocage, c'est-à-dire de la motivation, de la bonne humeur et des poubelles. Leur but, mobiliser contre la réforme des retraites et contre les violences policières. Alors à peine une heure plus tard, une première voiture de flics s'approche et déjà ils tendent la situation. Les flics commencent à essayer de virer les poubelles, les lycéens et les lycéennes ne se laissent pas faire, s'opposent en rétorquant « bon bah en fait juste c'est notre droit de bloquer notre lycée, vous allez pas nous faire chier ». Direct les flics montent la pression, en chopent plusieurs par le col, les dégagent. De manière assez virulente. À 8h, à peine 30 minutes après l'arrivée des premiers flics, 7 voitures et un fourgon arrivent. C'est-à-dire, en fait, quand même, le contexte, vous voyez, c'est 20, 30, peut-être 40 lycéens et lycéennes qui mettent des poubelles devant leur lycée pour dire à leurs petits camarades, allez, on va pas en cours aujourd'hui, on fait grève. Et,
c'est sympathique, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est quand même plutôt bonne ambiance. On parle pas de, ils ont pas foutu le feu aux poubelles. Enfin, c'est quand même bonne ambiance, quoi. Et là, direct, 7 voitures de flics, un fourgon. Les lycéens et lycéennes, ils font quoi? Ils forment une chaîne pour empêcher les flics de démonter leur barrage. 3 d'entre eux s'en prennent à un lycéen, le frappent au crâne, l'aspergent avec leur gazeuse à main là, à bout portant, le truc qui te brûle, c'est terrible. Alors que les flics essayent de les déloger, un des lycéens qui a un peu la haine, et on le comprend, leur jette un œuf dessus. Vous voyez,
c'est-à-dire
un œuf. Attention,
vous pouvez tuer un flic avec un œuf.
C'est-à-dire que les flics les ont poussés, bousculés, matraqués, gazés, et en échange ils se prennent un œuf. Voilà. Et ben rien de fou, sauf que directement la personne, enfin une personne est ciblée, les flics interviennent, l'arrêtent, la frappent, la collent contre le mur. Tout le monde commence à gueuler, libérer Michel, les flics s'agitent, aspergent tout le monde de gaz, embarquent Michel dans la voiture. Là, quand même, ils lâchent rien quand même. Ils ont quand même vraiment la classe, quoi. Ils sont fait taper, éclater, machin. Ils font barrière devant la voiture de flic en disant, bon, en fait, juste la voiture, elle part pas. Vous le sortez et puis c'est bon. Sauf que les flics, le conducteur, il décide quand même d'accélérer, de partir avec la personne, manquant d'écraser des personnes. Il écrase deux pieds d'une lycéenne. Ses potes appellent les pompiers. Elle sera transportée à l'hôpital et sortira avec une attelle sur un pied, une chevillère sur l'autre. Les pompiers ont dit que c'était assez miraculeux qu'il n'y ait pas de fracture et qu'elle ait devait ça parce qu'elle avait doué des grandes chaussures en cuir qui montent jusqu'au genou. Et que si elle n'avait pas eu des chaussures qui maintenaient quand même bien la cheville, a priori il y aurait eu de la fracture. Et des fractures de cheville, comme on l'a dit tout à l'heure, valait mieux pas arriver au service Édouard Herriot en janvier. Mais c'est quand même vraiment des sales fractures. Malgré tout ça, ils ont quand même continué, ils sont quand même mobilisés et ils sont allés motiver leurs collègues du lycée voisin et ils ont déclaré aux journalistes présents sur place, on n'a pas peur, c'est habituel, c'est violence, demain on sera dans la rue avec tout le monde.
Et un point maintenant sur nos mouchards de poche. Vous savez, c'est nos ordinateurs de poche qu'on appelle les smartphones qui ne sont pas du tout intelligents. Donc nous les appellerons les ordinateurs de poche. Et parce que demain, on va les avoir en manif, comme on les a souvent dans nos vies. Et que les flics ont maintenant une machine pour aspirer l'ensemble des données de nos mobiles. Et non, ce n'est pas un scénario paranoïaque, c'est confirmé. Il y a eu un reportage de Reporter et un article de Check News. On a maintenant la confirmation que les commissariats d'Île-de-France vont s'équiper d'une centaine de nouvelles machines capables d'aspirer l'ensemble des données de n'importe quel smartphone. Nos SMS, nos photos, nos localisations, nos données issues des applications. Donc ce nouveau système que les flics français nomment le kiosque est un ordinateur commercialisé par une société israélienne qui s'appelle Celebrist, qui est basé sur un logiciel du nom UFED Infeed, et il suffit aux flics de brancher nos téléphones à cette machine afin qu'ils puissent en moins de 10 minutes accéder à l'ensemble de son contenu sans avoir votre mot de passe ou données biométriques. On parle bien là dans ce cas de figure que votre téléphone est éteint. Vous voyez, il ne le chope pas allumé, le téléphone. Et ça, donc, malgré que le chiffrement des téléphones Android et iOS est maintenant par défaut, ils sont capables d'outrepasser cette sécurité. Donc dans les dernières mises à jour de leur logiciel, la UFED, la société Celebrist indique qu'ils sont capables de craquer plus de 25 000 device profiles, c'est en gros nos téléphones, et 10 000 applications de différentes versions. Et dans la liste des applications, on peut y voir des applications de messagerie chiffrée, comme Telegram, Signal, Messenger, WhatsApp. On prendra quand même des pincettes car on ne sait pas quelles données sont extraites de toutes ces applications là. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est intéressant de supprimer nos fils de conversation de nos téléphones globalement. Et donc Celebrist, c'est une société qui a été créée en 2009, qui a vendu plus de 35 000 systèmes là comme donc de craquage de nos téléphones. Ils font 100 millions de chiffres d'affaires. Leur effectif compte 400 personnes avec des bureaux en Israël, aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, à Singapour et au Royaume-Uni. Et les flics français disent l'avoir déjà expérimenté là, le kiosque lors du dernier G7. Et ils ont trouvé ça très positif. Et donc, ils comptent en installer 500 systèmes pour jusqu'en 2024 dans toute la France. Voilà, donc je trouvais que c'était une information importante importante à donner.
On est d'accord que pour que ça marche, il faut que les flics aient quand même ton téléphone en main.
Oui.
C'est pas en passant à côté de toi.
Non, en main, oui.
Mais pour ce que tu dis, ça rejoint la dernière ou avant-dernière ou avant-dernière sécurité antiterrorisme. Peut-être tu vas en parler de l'IMSI Catcher.
Non, vas-y.
Et ce qui permet aux flics, et notamment dans les contre-sommets, mais si ça se trouve maintenant ils le mettent peut-être même en place sur les grosses manifs ou les grosses mobilisations, c'est l'IMSI Catcher, c'est ces espèces de bornes relais. En fait, en gros, ça se fait passer comme une antenne relais, en gros, et votre téléphone va s'y connecter comme s'il se connectait à une antenne relais, sauf que les antennes relais habituelles, elles ont pas pour mission, et elles n'ont pas la possibilité d'enregistrer vos conversations. Sauf que là, comme c'est un outil qui est fait pour les flics et par les flics, et en gros, ça permet aux flics présents sur place de capter les conversations téléphoniques en direct et les échanges de textos, de savoir quel téléphone communiquer avec qui, ce qu'ils se racontent s'ils le veulent et quel texto ils s'envoient. Donc voilà, donc faut aussi faire gaffe à ça. C'est-à-dire que si dans des ans comme ça, on sait jamais, et ça peut arriver, et c'est relativement invisible pour votre téléphone. Il y a des applications, j'ai pas les noms, du coup faut quand même plus se renseigner que taper sur les stores de vos smartphones en disant IMSI Catcher. Voilà, il y a des applications qui existent, et renseignez-vous sur internet s'il y en a les sérieuses, parce qu'il y en a qui sont un peu farfelues. Mais voilà, il y a moyen de savoir si c'est une vraie antenne relais ou si c'est une fausse de la police sur laquelle votre téléphone est connecté.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et donc sur le CRIC, un média militant grenoblois, il y a deux articles qui reviennent sur les perquisitions du 26 novembre à Grenoble. Et sur quoi exactement la police enquête-t-elle dans le cadre de l'instruction? Et donc je vous conseille fortement, si vous voulez avoir plus d'infos et sur ces perquises, d'aller les lire. Et ils sont aussi également trouvables, d'autres médias militants les ont relayés, dont Indy Media Nantes, je crois, mais j'imagine d'autres. Voilà. Mais en tout cas, pour faire un point là-dessus, et pour commencer par rapport à la commission rogatoire, lors de perquisitions du 26, permet d'avoir une idée de quelle affaire pourrait être liée à l'instruction, dans laquelle personne n'est pour l'instant inculpé. Rappelons-le, hein, c'est important. L'instruction sur base, c'est une information suivie contre X qui couvre les hypothétiques faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime sur la période du 21 mars 2017 au 7 novembre 2019, donc ce qui est une période extrêmement longue, sur Grenoble et son agglomération, ainsi qu'une liste de crimes et délits qui auraient eu lieu pendant cette période. Donc la quasi-totalité de ces faits sont catégorisés par cette instruction comme des crimes. Et les crimes, juridiquement, ça encourt des peines de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Donc cette commission rogatoire, c'est quand même beaucoup c'est du lourd, puisque aussi les faits qui sont catégorisés par cette instruction, donc ils sont au nombre de 26. Donc il y a énormément de faits couvrant sur cette période. Et il est intéressant de noter que les 26 événements mentionnés dans la commission rogatoire semblent être liés depuis peu. Donc ce dernier mois, par la fusion de deux enquêtes différentes. On n'en sait pas plus sur la nature des deux enquêtes qui auraient ainsi fusionné, mais il est également intéressant de se pencher sur les actions qui ont eu lieu dans l'agglo et n'apparaissent pas dans cette procédure, même si tout laisse à penser qu'elles sont traitées par des procédures séparées.
Parce que sur la commission rogatoire, ce qui est écrit, c'est des noms de délits commis dans la loi, c'est-à-dire destruction par des moyens dangereux de biens appartenant à autrui, blablabla, avec des dates à chaque fois.
Voilà.
Mais c'est pas très précis. Il a fallu que les gens, sur la base de la commission rogatoire, fassent des recherches pour savoir à chaque fois de quoi le juge parlait précisément, la juge. Et ils sont pas toujours arrivés à savoir, je crois.
Voilà, exactement. Cette procédure vise exclusivement des actions ayant eu lieu dans l'agglo. Même quand les liens avec d'autres actions en dehors pourraient paraître évidents. Par exemple, un des exemples, c'est la tour de diffusion dégradée le lendemain de l'incendie des locaux de France Bleu à Grenoble n'est pas dans la liste, malgré une revendication commune des deux actions. Donc j'espère que vous suivez. Et de plus, il ne semble pas y avoir de corrélation entre la revendication des actions et leur présence dans cette liste de 26 événements, puisque plusieurs actions revendiquées dans l'agglo n'y apparaissent pas et vice-versa. Donc cela porte à croire qu'il y a peut-être d'autres instructions en cours actuellement. Autre fait important, il s'agit donc d'une commission rogatoire générale qui ne vise ni des personnes ni des lieux précis, ce qui est quand même assez rare. Du coup, cette commission rogatoire délègue l'entièreté de l'enquête à la police sur l'ensemble du territoire national.
Et autorise la police à faire tout ce qu'elle a besoin de faire pour la manifestation de la vérité. C'est-à-dire que demain, ils peuvent arriver chez vous avec cette commission rogatoire à la main et rentrer chez vous et aller fouiller vos chaussettes sales.
C'est ça, elle est réutilisable indéfiniment pour auditionner, perquisitionner, saisir, réquisitionner, interpeller et mener toute investigation utile à la manifestation de la vérité sans contrôle d'un juge jusqu'au 21 janvier 2020.
C'est ça, du coup, c'est pas indéfiniment, il y a quand même une date
non, non,
de fin.
Oui. Oui, mais nous sommes du moins, ça s'est passé
c'est
le 26
dans un
novembre.
Mois et demi, quoi.
Donc ça leur laisse une marge d'action énorme entre dans la possibilité de perquisitionner des lieux, des personnes sans motif, du moins pendant 2 mois en gros. Donc il faut donc s'attendre à ce qu'elle soit utilisée à nouveau prochainement. Donc voilà pourquoi on en vient là. Et sinon, les perquisitions du 26 novembre, comment elles se sont passées, pourquoi faire un retour là-dessus, c'est aussi pour informer de comment se passent des perquisitions. Les flics ont débarqué à 6h du matin dans 5 lieux d'habitation ou d'activité, ainsi que dans différents lieux de la ZAD de Roibon. Le dispositif était assez impressionnant. Donc, j'en avais parlé la semaine dernière, je vais le redire rapidement, 350 flics mobilisés rien que sur Grenoble. Ça a été assez tendu. Ils sont arrivés, ont défoncé les portes, ils ont confiné chaque personne dans les espaces où elle se trouvait. Et dans certains lieux, Cerfélex aux mains pour toutes les habitantes. Mais après, de fait, la tension pour la plupart des gens, même si les gens ont attendu plusieurs heures dans une même chambre seule, la pression est plutôt redescendue. Ils en ont les flics en fait, alors qu'ils venaient perquisitionner par rapport à ces trucs, en ont bien profité pour faire une distinction entre les anarchistes d'un côté et les migrantes de l'autre. Et il y a eu différents événements racistes de la part des flics à ces moments-là. Il y a eu des personnes donc qui sont pris 2 OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français. 5 personnes qui avaient été mises en centre de rétention. Là, il y a sur les 5 personnes qui ont été mises en centre de rétention, il y a 4 personnes qui sont sorties. Une qui a accepté l'aide au retour et une autre qui est en résidence surveillée. Les autres perquisitions qui ont eu lieu, les 3 axes principaux, c'est l'identité ils cherchaient des gens, l'ADN et la perquisition de matériel. Donc l'identité, je vais pas en parler là, c'est donc les gens ont été placés en garde à vue pour les personnes qui ont refusé de donner leur identité. Voilà. Pour l'ADN, il y a eu trois manières pour prendre l'ADN, donc des personnes qui ont accepté de la donner. Une autre manière de les prendre pour les personnes qui refusaient, c'est de prendre trois objets par cette personne qui pouvait être des mégots, têtes d'oreiller, bouteilles d'eau, chaussettes, culottes, brosses à dents, casquettes, gants, tasses. Et voilà. Et ou sinon des objets sur des en prélevant l'ADN sur des objets, carte d'identité, carte bancaire, voilà. Et sinon l'autre méthode, c'était de prendre l'ADN sous couvert de palpation. Où ensuite les flics ont mis les gants dans les gants en ayant frotté au préalable les cheveux ou les aisselles, vous voyez,
les bâtards. Gens,
ouais. C'est vraiment voilà. Donc les palpations peuvent permettre de récupérer l'ADN pour les flics. C'est très vicieux. Et sinon ensuite ça a été le maire Teriel qui a été perquisitionné. Donc qu'est-ce qu'il cherchait? Des téléphones portables, bizarrement, des ordinateurs, des disques durs, des clés USB, des tablettes, des papiers administratifs et différents types de documents, vous voyez, reliés au lieu, donc des cahiers de réunion pour les lieux collectifs. Ils ont bombardé de photos les brochures, archives, livres, agendas, voilà. Bref, si vous voulez plus de détails, allez lire ces deux articles qui sont assez complets. Mais voilà, pour dire comment, en gros, la police agit quand ils essayent, parce que là, ils essayent de trouver des coupables pour un certain nombre de casses, incendies qui ont été revendiqués. Eh ben, ils savent mettre les moyens.
Canu Info. Du mercredi.
Aujourd'hui, on est le 4 décembre et donc dimanche, on sera le
5.
Non, le 8 cette fois.
Ah.
Le 8 décembre, la fête des Lumières. Et ben, la fête des Lumières et ses millions de touristes et toutes ces saloperies. Et ben, figurez-vous qu'on voit fleurir.
Et la Vierge Marie.
Et la Vierge Marie. Ah, j'entends plus rien d'un coup, je m'entends plus. Est-ce que c'est parce que.
Ouais, on t'entend,
vous
t'entend.
M'entendez,
vas-y.
Tout va bien.
Ton casque.
Allez, mais ça, je ne m'entends. Pardon. Et ben, figurez-vous que pour les gens qui regardent les murs de notre jolie cité, il y a quelques affiches appelant à un carnaval pour éteindre la fête des Lumières.
Wow.
Le rendez-vous, c'est samedi 7 décembre à 19h au pont Lafayette, côté 6e arrondissement. Et que nous disent ces affiches? Elles nous disent que le 8 décembre, c'est la fête de l'argent, des inégalités, de Airbnb, de la ville entreprise gérée par les PDG Colomb Kimmelfeld. À cette occasion, après le 5 décembre... donc, dans la suite du 5 décembre, manifestons nos mécontentements, nos rages, nos espoirs. À toutes celles et ceux qui luttent pour un monde meilleur, pour la justice sociale, pour la solidarité, contre la marchandisation de tout ce qui constitue nos vies, créons un vaste front vert, jaune, noir et rouge, contre tout ce qui pourrit nos vies. Venez avec vos banderoles, pancartes, colère et couleurs, chants, instruments et musique. Pardon, c'est qu'il manquait une virgule qui m'a complètement déstabilisé.
C'est vrai.
Quel homme de lettres.
Abat toutes les oppressions, éteignons la fête des Lumières. Rendez-vous, je le répète, samedi 7 décembre, 19h, pour Lafayette, côté 6e arrondissement. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter le rendez-vous, ouvrez les yeux. Quand vous marchez dans la rue, il y a des tonnes d'affiches, des énormes.
Et allez, comme il nous reste une minute, on finit par un petit sondage que j'ai trouvé sur le Figaro.
Ah,
on adore les sondages, on adore le Figaro. Ça tombe bien. 69% des sondés considèrent que la grève de demain est justifiée. C'est l'équivalent du soutien en début de mouvement des Gilets jaunes. Autant dire qu'il était massif quand même, on s'en souvient. En un mois, il y a un mois, on était à 57% qui trouvaient que cela était injustifié. En un mois, on a complètement basculé.
Merci le Figaro pour ces chiffres.
Le sondage souligne également que pour 89% qui soutiennent du coup la grève, le fond rap, ils soutiennent parce que c'est flou autour de la réforme. Moi, je vais y arriver. 85% c'est aussi parce qu'ils craignent de travailler plus. Oui, ça c'est oui. Et pour 80%, et ça c'est pas mal, c'est également pour sanctionner le gouvernement. De manière plus
voilà. Pour tous les trucs dont on parlait en début d'émission.
Tout à fait. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que si le mouvement dure, et on espère qu'il est parti pour durer, eh ben, 60% le reprocherait au gouvernement plutôt qu'au syndicat. On espère que ces 60% ne changeront pas d'avis en cours de mouvement.
Eh ben, on se retrouve demain dans la rue.
Et en attendant, on vous laisse avec Idée Noire, l'émission de l'UCL.
Bonne soirée, à la semaine prochaine.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.